Quelle connerie de laisser une pipe dans un endroit pareil. Après les cérémonies d'hommage en octobre, les réunions de l'Alpine Club et notre entretien avec Norton, Somerville, Noël, Odell et Ingston, mais avant notre voyage en Allemagne pour rencontrer Siegel, Jean-Claude et moi désirons commencer les préparatifs pour l'Everest. Le diacre s'y oppose. D'après lui, nous avons deux choses à faire avant de prévoir le matériel et la logistique pour une telle expédition. En premier lieu, dit le diacre, nous devons en apprendre davantage sur George Mallory, ce qui nous enseignera quelque chose d'important sur le défi qui nous attend. Et pour cela, nous devons nous rendre au pays de Galles. J'ignore tout du pays de Galles, croyant seulement me souvenir qu'il n'utilise pas de voyelles là-bas. Ou alors, que des voyelles, je vais bientôt le découvrir. Nous disposons de quelques semaines avant que le diacre et moi partions en Bavière. Il a organisé un rendez-vous avec Bruno Siegel à Munich en novembre. Entre-temps, il m'a rappelé que Jean-Claude n'avait pas seulement perdu ses trois frères aînés pendant la guerre, mais aussi deux oncles et six autres membres de sa famille. Vu les circonstances, je trouve surprenant que Jean-Claude accepte des clients allemands dans le cadre de son activité de guide de Chamonix et qu'il se montre aussi prudent, protecteur et poli avec eux qu'avec ses clients français, italiens, britanniques, américains ou autres. Mais dans le fond, m'a confié le diacre, J.C. déteste les boches. D'abord, dit le diacre une fois que nous avons rempli le coffre et presque tout l'arrière de l'auto qu'on nous a prêté de sacs à dos et de matériel d'escalade, dont une grande quantité de la nouvelle corde onéreuse conçue par notre ami, la corde miracle du diacre, comme nous l'appelons J.C. et moi, puisque le mélange de brins qui la compose lui donne une bien plus grande force de tension que la corde d'escalade plus cassante que nous utilisons d'ordinaire dans les Alpes. D'abord, nous allons à peine y passe. À peine y passe, dis-je. On se croirait dans un western avec Tom Mix. Ignorant ma remarque, le diacre démarre le moteur et quitte Londres par l'ouest, direction le pays de Galles. Penny Pass est une zone de rochers escarpés et de dalles verticales dans la région du mont Snowdon, dans le nord du pays de Galles. Au sommet du col, nous passons devant un hôtel qui, d'après le diacre, a accueilli de nombreux groupes de grimpeurs quand la pratique de l'escalade s'est développée en Grande-Bretagne, dont beaucoup étaient amenés par le plus grand rochassier de l'époque, George Winthrop Young, un vieil ami de Mallory, qu'il avait rencontré en 1909. J'aurais volontiers pris un bon déjeuner et une pinte à l'hôtel, mais nous continuons notre route. Si nous avons emporté des sandwichs et de l'eau dans nos sacs à dos, j'espérais secrètement quelque chose de meilleur. Nous avons dépassé de nombreux escarpements rocheux tout à fait propices à l'escalade le long de la route de terre que nous parcourons depuis maintenant une heure. Mais le diacre nous emmène toujours plus loin, pour finir par se garer dans une zone isolée. Prenez vos sacs à dos et sortez tout le matériel du coffre, les gars, déclare-t-il. Et fixez-les bien. Ce sera une longue randonnée. Il ne ment pas. Il nous faut 2 heures de marche en terrain accidenté pour atteindre le rocher qu'il a choisi. Je ne me rappelle plus aujourd'hui s'il s'appelait Leeued ou Leecog, mais c'est un gros rocher, avec une paroi verticale d'au moins 120 mètres et un redoutable surplomb courant sur toute sa longueur, à environ 15 mètres du sommet. Tout ce que nous savons, c'est que le diacre a escaladé ici avant la guerre avec Mallory, son épouse, Claude Elliott, David Pye, Harold Porter, qui a réalisé beaucoup des premières ascensions et ouvert de nouvelles voies dans ces montagnes en 1911, et le meilleur grimpeur de l'époque et peut-être le meilleur ami de Mallory dans ce milieu, Siegfried Herford. Jean-Claude et moi sommes prêts à nous asseoir, étudier la face, très intimidante, du rocher, et manger notre pathétique déjeuner, mais le diacre insiste pour que nous marchions encore un peu. Étonnamment, il nous emmène à l'arrière de cette roche massive, d'où l'ascension jusqu'au sommet serait un jeu d'enfant, puisqu'il suffirait d'escalader des éboulis et des aplombs faciles. C'est précisément ce que nous faisons, ce qui m'agace. Je déteste choisir la voie de la facilité, bien que ce soit souvent la meilleure façon de reconnaître une paroi verticale. De nombreux grands grimpeurs le font et descendent même en rappel pour étudier le terrain avant d'entamer l'ascension. Le diacre nous raconte qu'après avoir fait cette vérification, Mallory avait laissé son partenaire d'escalade de l'époque, Harold Porter, prendre la tête de l'ascension. Même après que nous avons monté avec notre chargement jusqu'en haut, le diacre ne nous autorise pas à déjeuner. Les trois sommets se révèlent presque inutiles pour une reconnaissance de la falaise en raison de ce surplomb qui nous bouche la vue à environ 15 mètres en dessous. « Assurez-moi, » dit le diacre qui me tend un des plus longs rouleaux de cordes que nous avons dûment transportés jusqu'en haut. « Il est logique que je me charge de l'assurage, je suis de loin le plus lourd, le plus grand et sans doute le plus costaud de nous trois, et il n'y a rien sinon qui puisse servir de relais, mais c'est tout de même énervant. Je risque de gaspiller de l'énergie dont j'aurai besoin pour l'ascension de la paroi rocheuse que le diacre a peut-être planifiée. » Par chance, il y a une petite arête rocheuse le long du sommet où je peux caler mes pieds, ce qui m'empêchera de glisser pendant l'assurage. Je sens que Jean-Claude ramasse la corde derrière moi, même si, étant plus petit et plus léger, il n'a pratiquement aucune chance de réussir à arrêter notre chute si le diacre et moi devions basculer dans le vide. Il nous accompagnerait seulement dans notre dégringolade de 1000 mètres. Le diacre fume nonchalamment sa pipe en s'élançant en rappel et disparaît bientôt de ma vue. Il descend vite, de 2 à 3 mètres à chaque rebond, et la charge sur la corde est importante. Je suis tendu en position classique d'assurage, corde à l'épaule, et je me félicite de pouvoir planter les talons de mes bottes dans une fissure du rocher. Tenant toujours l'extrémité de la corde, Jean-Claude s'approche du bord du précipice, se penche pour regarder en bas et dit « On ne le voit plus sous le surplomb ». Puis brusquement, la corde devient molle. Le diacre bouge toujours, je dois lâcher encore un peu de longueur, mais il se déplace horizontalement le long d'une vire quelconque et n'a pas besoin d'un assurage complet. Puis la corde s'immobilise. Je tiens ma position et Jean-Claude se penche davantage. Je vois de la fumée qui monte au-dessus du surplomb. Bon sang ! Le diacre s'est assis sur une corniche pour fumer sa pipe. Alors que je meurs de faim, dis-je, et que je voudrais goûter le vin que j'ai apporté, dit Jean-Claude. Ce n'est pas drôle du tout. Qu'est-ce que cette escalade a à voir avec notre ascension de l'Everest ? Quoi que Mallory et le diacre aient pu accomplir sur ces rochers avant la guerre ? L'Everest n'est pas un défi pour les rochassiers, c'est de la neige, des glaciers, des crevasses, des murs de glace, des hautes arêtes et de profonds champs de neige. Ce voyage au Pays de Galles est une perte de temps. Comme si le diacre nous avait entendu, il tire une fois sur la corde pour m'avertir. Je reprends ma position d'assurage, me penchant en arrière pour soutenir son poids, qui n'est pas très important, Dieu merci, puisqu'il est maigre comme Sherlock Holmes, pendant qu'il remonte par-dessus le surplomb et escalade presque à l'horizontale les 15 ou 20 derniers mètres. Une minute plus tard, il nous a rejoints au sommet et a défait les nœuds de la corde de rappel. Je remarque qu'il ne fume plus sa maudite pipe qu'il a dû ranger dans la poche de sa chemise. « Mangeons avant de redescendre faire ce pour quoi nous sommes venus, » dit-il. « Je veux que vous l'escaladiez tous les deux, » annonce le diacre alors que J.C. et moi levons les yeux vers la sinistre paroi. « Jusqu'au sommet ?» demande Jean-Claude, regardant le tas de cordes, de mousquetons, de pitons et autres matériels que nous avons portés jusqu'à ce site reculé. Il faudra enfoncer des pitons à l'allemande pour l'impression de sécurité, attacher des étriers et une échelle de corde quelconque pour tenir sous cette impressionnante saillie, puis progresser d'un anneau à l'autre et essayer de trouver une prise de main sur le large bord afin de se hisser par-dessus. Le diacre secoue la tête. « Jusqu'à l'endroit où j'ai oublié ma pipe, » dit-il, montrant du doigt une vire herbeuse aux trois quarts de la paroi, juste sous le surplomb. « Je veux la récupérer. » Aussi tentés que nous soyons, J.C. et moi, de lui répondre « Eh bien, allez la chercher vous-même », nous restons tous deux silencieux. Il doit bien y avoir un lien avec Mallory et notre tentative d'ascension de l'Everest. « Et pas de ferraille, » ajoute le diacre. « Uniquement vous deux, des cordes et vos piolets si vous le souhaitez. » « Des piolets. » Jean-Claude et moi échangeons de nouveaux coups d'œil inquiets avant de lever les yeux vers la paroi. La vire herbeuse sur laquelle le diacre a laissé sa maudite pipe se trouve à environ 75 mètres au-dessus de nous, bien protégée par le surplomb et suffisamment large pour qu'on puisse s'y asseoir, fumer sa pipe et admirer le paysage comme du 25e étage d'un immeuble. Exactement ce que le diacre a fait. Il lui a fallu 2 minutes pour descendre en rappel depuis le sommet jusqu'à cette corniche, en incluant le passage un peu retors du surplomb. Mais escalader d'ici ? Le rocher constitue ce genre de défi juste au-delà du possible, qui fait venir un langage fleuri aux lèvres des grimpeurs même les plus mesurés. Je sais, dit le diacre, comme s'il lisait dans nos pensées. Il est intimidant, ce petit salaud. Sous la vire, la paroi de roche présente un renflement lisse et escarpé sur une largeur de 15 à 20 mètres. Ça m'évoque le bas-ventre d'une truie géante ou d'un ancien boxeur qui se serait complètement laissé aller. Je suis un bon rochassier. J'ai fait beaucoup de varap dans le Massachusetts et ailleurs, avant de m'attaquer à de plus grands défis dans le Colorado et en Alaska. Je me crois capable d'escalader toute paroi rocheuse dès lors qu'il est possible de l'escalader. Mais cette maudite face sous la vire est tout simplement impossible. Du moins avec l'équipement et les techniques de 1924. Les Allemands pourraient peut-être réussir avec toutes leurs ferrailles, mousquetons, pitons et autres que nous avons portés jusqu'ici, mais le diacre nous a interdit l'utilisation de cette quincaillerie teutonne. Je ne distingue aucune arête, aucune fissure, aucune prise de doigt, ni aucun pli dans la roche où caler un pied, et le ventre lisse de la truie forme un gros bourrelet qui se creuse ensuite dans sa partie basse. Seule la vitesse et l'adhérence peuvent permettre à un grimpeur de tenir sur une paroi verticale. L'adhérence de chaque partie du corps, dont les paumes, la joue, le torse, les bras et les jambes écartées qui tentent de pénétrer la roche pour éviter une chute mortelle de 60 mètres. Mais la forme du ventre de la truie exclut une escalade par adhérence sous son renflement. On se retrouverait en suspension presque horizontale, sans aucune prise. La chute serait inévitable. Même si on avait le droit d'utiliser des pitons, je ne vois aucune fissure ou crevasse, aucune zone plus tendre sur cette méchante surface de granit où l'on pourrait en planter un. Il faut donc dire adieu à la directissima, la voie directe jusqu'à la vire herbeuse où est posée la pipe du diacre à 75 mètres au-dessus de nous. Ce qui nous laisse la fissure qui coupe à la verticale la plus grande partie de la paroi à environ 15 mètres à droite de la corniche. Jean-Claude et moi nous approchons de la base du rocher et levons les yeux. Nous devons nous pencher en arrière pour la voir monter tout là-haut, puis se réduire à une mini-fissure qui se referme pas très loin sous le grand surplomb. Les 10 premiers mètres environ seront assez faciles à escalader, l'érosion a exposé des blocs de pierre et des arêtes, mais après il n'y a que cette étroite fissure et l'espoir de trouver des prises de doigts et de pieds invisibles de là où nous nous trouvons.
« Je déteste escalader de la chatte, » marmonne Jean-Claude. « Je suis choqué. Jusqu'ici, je n'ai jamais entendu l'un ou l'autre de mes nouveaux amis grimpeurs prononcer la moindre obscénité ou un commentaire aussi vulgaire. Sans doute, Jean-Claude ne mesure-t-il pas à quel point le mot est inacceptable en anglais. Mais en levant de nouveau les yeux, je comprends sa répugnance. Sur plus de 60 mètres... Notre ascension dépendra de notre capacité à coincer nos mains, nos avant-bras, nos doigts en sang et la pointe de nos bottes dans une fissure de plus en plus étroite et zigzagante. Je doute de trouver plus de 6 relais corrects en tout et pour tout le long de cette minable petite fissure. Et je ne vois toujours pas la moindre prise correcte pour les mains et les pieds de part et d'autre.
« À vous de jouer, Jake, » dit Jean-Claude. Magnifique sur la neige et la glace, brillant sur les arêtes et les faces des montagnes, le jeune guide n'apprécie tout bonnement pas ce genre d'escalade en falaise.
« Est-ce que ça vaut la peine de s'encorder ?» demande-t-il.
Une fois encore, j'examine la paroi et la fissure, ainsi que les 15 mètres séparant la vire de la pipe de l'extrémité de la fissure qu'il nous faudra traverser, si tant est que ce soit possible, en réfléchissant à la question. En vérité, nous serions plus en sécurité, surtout moi, si chacun de nous grimpait en solo. Avec si peu de relais, il n'y a pratiquement aucune chance qu'en cas de chute de l'un, l'autre puisse le retenir. Mais pratiquement aucune chance vaut mieux que pas de chance du tout.
Oui, dis-je, 10 mètres de corde entre nous devraient suffire.
Jean-Claude grommelle. Dans l'hypothèse d'un dévissage, une longe aussi courte augmente légèrement les chances de pouvoir retenir un grimpeur. Puisque cela limite l'amplitude de la chute et réduit donc l'énergie que l'assureur doit absorber. Mais une corde courte signifiera une ascension lente, avec de nombreux arrêts pour que chaque homme assure l'autre. Une grimpe lente, laborieuse et dangereuse, alors que la vitesse est le maître mot de ce genre d'escalade.
Mais nous devrions monter une sacrée quantité de cordes, ajoutai-je, pour la descente en rappel.
Jean-Claude observe avec colère la vire de la pipe,
jette un regard noir au diacre et dit « Ça fera beaucoup de cordes pour un rappel complet. » « On procédera en deux étapes, JC, » dis-je en affichant beaucoup plus d'enthousiasme et de confiance que je n'en ressens. « Il doit y avoir au moins un relais potable au milieu de cette fissure. » Le grimpeur de tête descendra en rappel jusque-là et y installera le second relais. Simple comme bonjour. Jean-Claude se contente de marmonner. Je me tourne vers le diacre. Je suppose que vous allez nous expliquer ce que cette lamentable escalade pour sauver votre pipe a à voir avec Mallory et notre expédition dans l'Everest. Je me rends compte que mon ton est aussi furieux que l'était le regard de JC. Je vous l'expliquerai une fois que vous m'aurez rapporté ma pipe, mon vieux. Répond le diacre avec cette suffisance toute britannique qui donne aux Américains l'envie de frapper les Anglais. Jean-Claude et moi nous asseyons, dos au rocher, et commençons à préparer des rouleaux de cordes que nous porterons sur le dos, autour du ventre et dans nos sacs à dos. Le mien me servira surtout à fixer mon piolet, dont je pense avoir l'utilité, même si JC me croit fou de l'emporter sur cette masse de roches sans glace et sans neige. Et il me regarde avec stupéfaction, à présent convaincu de ma démence, retirer mes bottes pour enfiler une vieille paire de tennis toute trouée après avoir écumé tant de terrain en terre battue à l'université et pendant mes vacances d'été. Je comprends l'incrédulité de mon ami français. L'escalade en fissure requiert les bottes les plus lourdes et rigides possibles. En coinçant le bout d'une botte dans le plus petit étrier ou la plus petite prise de pied, la semelle raide fournit une plateforme stable sur laquelle s'appuyer pour trouver la prise suivante. Chaussé de tennis, je suis presque sûr de finir cette escalade avec les pieds aussi abîmés et ensanglantés que les mains. Mais tout ce que j'ai en tête, c'est cette traversée de 15 mètres pour atteindre la corniche, sur ce renflement de roche en forme de ventre de truie, d'apparence parfaitement lisse et sans appui. Sur ce genre de surface, j'ai toujours utilisé les chaussures les plus souples possibles. L'équivalent américain des chaussons à semelle adhérente que la nouvelle génération de varapeurs allemands appelle des Kletterschuhe. Aujourd'hui, ce seront mes vieilles tennis. Jean-Claude et moi nous encordons et commençons l'escalade. Au bout de quelques mètres, nous utilisons la fissure qui se révèle encore plus retorse que je le pensais. Mes mains, déjà calleuses, saignent abondamment avant la fin de la première longueur. Mes tennis ont de nouveaux trous, et j'ai l'impression que mes pauvres pieds aussi. Mais nous avons trouvé notre rythme, et bientôt, nous grimpons aussi vite que le permettent nos fréquents arrêts pour assurer le relais. Jean-Claude repère les endroits improbables où je fourre mes mains ou pose mes pieds pour avoir une prise, puis il m'emboîte le pas et nous poursuivons notre escalade à bonne allure. Seuls nos jurons occasionnels, en anglais américain ou dans un français plus expressif, résonne jusqu'à l'endroit où le diacre est adossé à un arbre sans presque jamais lever les yeux vers nous. Alors que nous avons grimpé une trentaine de mètres, une pensée qui me trottait vaguement dans la tête se précise. La plupart des varapeurs préfèrent pratiquer à proximité d'une route. Les chutes sur une paroi verticale peuvent se révéler terribles, et si la victime survit mais se trouve immobilisée avec des os brisés ou le dos blessé, il importe de l'emmener se faire soigner au plus vite, si elle est en état d'être déplacée, ou de faire venir des secours rapidement dans le cas contraire. Nos deux heures de marche pénible pour arriver jusqu'ici, et l'impossibilité de faire passer une voiture ou même une charrette tirée par un cheval entre les rochers, prouvent que Mallory, le diacre, Harold Porter, Siegfried Herford et les autres possédaient une confiance en soi et un courage impressionnant en venant escalader ici avant la guerre. À moins qu'il ne s'agisse de stupide arrogance. Je suis mal placé pour parler de stupide arrogance, me dis-je, alors que je serre ma main gauche douloureuse et en sang pour en faire une lame biseautée et l'enfonce aussi haut que possible dans la fissure. Puis, sans aucun appui pour les pieds, je me hisse une fois encore. Quand je trouve un étrier où poser au moins l'une de mes tennis usées, ainsi qu'une vraie prise pour au moins une de mes mains, et non un simple point d'appui par adhérence, je crie relais, et j'attends que Jean-Claude grimpe de 10 mètres environ, jusqu'à ce que sa tête soit juste sous ma tennis libre. À environ 60 mètres de haut, nous faisons une pause pour reprendre notre souffle, quelques secondes seulement, car tenir plus longtemps ce genre de prise nous fatiguerait encore davantage. Et Jean-Claude lance... « Mon ami, cette escalade, c'est de la merde !»« Oui, opinai-je, utilisant la moitié de mes ressources linguistiques en français. Il est possible que le petit doigt de ma main gauche soit cassé. Je sens qu'il l'est, ce qui n'augure rien de bon pour notre tentative d'ascension de l'Everest, même si elle n'aura pas lieu avant 8 mois. Nous allons devoir escalader jusqu'en haut de cette foutue fissure pour avoir une chance d'effectuer la traversée, jusqu'au surplomb. Je sais, Jake. De là, vous devrez rejoindre la Vire, à moitié en escalade libre et à moitié en glissade. Mais ça fait presque 20 mètres à franchir sur cette portion de roche lisse et quasi verticale. Nous accrocherons une corde supplémentaire entre nous, si on réussit à me trouver un relais là-haut. Mais si vous voulez mon avis, c'est impossible. Lorsque vous glisserez sur le dôme, vous m'arracherez de mon ancrage dans la fissure comme on fait sauter le bouchon d'une bouteille de vin. Merci pour l'image et les encouragements. Puis j'ajoute plus fort. Parti ! Je coince ma main gauche aussi profondément que je peux dans la fissure d'environ 7 cm, très haut au-dessus de ma tête, et m'y accroche tout en cherchant une autre prise de main ou un étrier pour ma chaussure de tennis. Le fait d'avoir le corps plaqué contre la roche, juste sous le surplomb de 2 mètres, crée un sentiment oppressant, comme si ce plafond risquait de nous arracher à nos prises précaires dans cette fichue fissure, toute mince et horizontale à cet endroit. La vue d'ici est sans doute très belle, mais nous sommes trop concentrés sur l'exercice pour en profiter. Comme nous nous trouvons seulement 12 mètres plus haut que la vire herbeuse, qui me semble distante d'un kilomètre par-delà le renflement lisse du rocher presque vertical, la glissade que j'ai en tête sera plus compliquée que je l'espérais. Avec précaution et d'une seule main, je sors mon piolet de son attache sur mon sac à dos et plante le bout de la longue lame incurvée aussi profondément que je peux dans la fissure horizontale. Par chance, elle est creusée en V. Puis je lâche ma prise et tire de tout mon poids. La forme de la lame s'adapte parfaitement à celle de la fissure. Ça tient, mais je ne parierai pas ma vie, quoique en réalité je sois en train de le faire, que ça tiendra longtemps. Voici votre relais, dis-je à Jean-Claude. Il a avancé sur ma droite le long de la fissure, m'a même légèrement dépassé, de sorte que nous nous regardons dans les yeux pour la première fois depuis le début de l'ascension. Suspendu. À votre piolet, dit Jean-Claude d'une voix blanche. Oui, avec votre botte gauche dans cette partie de la fissure verticale qui vient d'arracher le devant de ma chaussure de tennis. Mes jambes ne sont pas assez longues pour atteindre la fissure tout en me tenant à votre piolet, signale JC sans emphase inutile. Cette ascension nous a déjà pas mal épuisés. Je sais d'instinct que mon ami préférerait essayer de franchir cet impossible surplomb en escalade libre pour atteindre le sommet, plutôt que de m'aider à descendre sur cette satanée vire. Rallongez une de vos jambes, lui dis-je, et je lui tends l'extrémité du deuxième rouleau de corde que j'ai porté jusqu'ici. En matière de nœud, JC est meilleur que moi. Relié à lui par la nouvelle corde, je dispose de 24 mètres de longe. C'est nécessaire pour la quantité de roches nues que je dois traverser. 18 mètres jusqu'à la vire et un peu de mou pour des déplacements vers le haut ou le bas. Mais ça signifie que JC devrait m'arrêter après une chute de 24 mètres. Je regarde son relais. Il a rallongé sa jambe gauche et se tient presque à l'horizontale, une botte sur une arête située un peu plus haut que l'endroit où j'étais, la main gauche agrippée au piolet, et l'avant-bras droit supportant une grande partie de son poids calé le long d'une arête de 7 cm qu'il a découverte sous la fissure. Je repense à l'image évoquée par Jean-Claude. Si je chute, il sautera comme le bouchon d'une bouteille de vin, ou, dans ce cas précis, avec la violence d'un bouchon de champagne. Mais si je veux pouvoir l'assurer une fois sur la vire de la pipe, ce lien est nécessaire. Je me dis que si j'étais JC, j'aurais déjà mon canif ouvert dans ma main libre, prêt à sectionner la corde avant qu'elle se tende dans la chute. C'est peut-être le cas. Le rocher et la position de son corps m'empêchent de bien voir sa main. « Ok, dis-je. Quand faut y aller, faut y aller. » D'habitude, mes deux amis goûtent mes expressions américaines, mais pas cette fois. Le diacre paraît somnolé, à 75 mètres en contrebas, le dos collé à la chaleur d'un rocher, son chapeau de tweed baissé sur ses yeux. Quant à Jean-Claude, il n'est tout simplement pas d'humeur. Je m'écarte de la fissure pour aborder la paroi lisse et quasi verticale. Je glisse de 30 ou 40 cm seulement avant que la friction ne m'arrête, bras et jambes écartés sur la roche. Ma chemise, mon visage, mon ventre, mes testicules, mes cuisses et le bas de mes jambes très tendues cherchent l'adhérence, que j'obtiens essentiellement grâce au bout de mes tennis qui est presque perpendiculaire au reste de mes pieds. Ce n'est guère confortable, mais pas aussi inconfortable qu'une chute de 75 mètres. Je ne peux pas rester là. Je commence à glisser sur la gauche vers cette foutue corniche qui se trouve 8 mètres plus bas et à environ 18 mètres de distance. Mes doigts cherchent des prises, même la plus infime ride dans la roche, mais cette paroi en est complètement dépourvue. Je continue à progresser vers la gauche, ne tenant à la falaise presque verticale que par l'adhérence et la vitesse. Parfois, quand on est assez rapide, la gravité ne vous remarque pas tout de suite. Mes tennis assurent encore 80% du boulot. Dérouler la corde pour gisser tout en me déplaçant en crabe vers la gauche est une affaire délicate. La plus grande quantité se trouve à l'intérieur de mon sac à dos, qui tente en permanence de me tirer en arrière et de me décoller de la paroi. Mais j'ai dû aussi en nouer une partie autour de mon épaule droite. Le rouleau de corde entrave mon adhérence et chaque fois que j'en lâche une longueur pour Jean-Claude, je glisse légèrement avant de pouvoir de nouveau plaquer les paumes, les doigts et les avant-bras contre le roc. J'ai parcouru un peu plus de la moitié de la distance jusqu'à la vire quand je dérape. Mon corps se décolle sur une partie verglacée de la grande paroi. Je fais tout ce que je peux pour me retenir. Mes doigts tentant d'agripper la moindre prise, arête ou irrégularité dans la roche, mais je continue de glisser. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Je suis déjà plus bas que la vire, toujours plus loin sur ma gauche, et je me rapproche d'une partie de la paroi suffisamment incurvée pour mériter le nom d'apic. Si je tombe de là, c'est la chute assurée jusqu'à l'endroit où le diacre fait sa sieste. En emportant JC avec moi, s'il n'est pas assez malin pour sectionner la corde avec son canif. Je voudrais lui crier de le faire, il n'est qu'à 12 mètres de distance, dans cette position impossible, mais je suis trop occupé pour crier. S'il la coupe, tant mieux, sinon il mourra avec moi. Tout se jouera en quelques secondes. Je fais la roue dans ma chute et me retrouve la tête en bas, les bras et les jambes toujours écartés. Mon visage et mon torse s'écorchent sur la surface soudain plus rugueuse. Une surface rugueuse. Mes doigts en sang se transforment en griffes, cherchant une arête assez grande pour s'y accrocher et stopper cette glissade. Mes griffes perdent un ou deux ongles, mais ne m'arrêtent ni ne me ralentissent. Le fait que je sois la tête en bas n'arrange rien. La corde n'est toujours pas tendue. Ce qu'il en reste se détache de mon épaule, donnant encore du mou à Jean-Claude, et quand on en sera aux 12 mètres supplémentaires dans mon sac à dos, j'aurai dépassé le rebord, qui n'est plus qu'à quelques mètres, et je tomberai en chute libre. Soudain, mes orteils droits trouvent une ride plus profonde dans la roche, juste au-dessus de la pique, et je m'immobilise d'un coup. Baf ! Le sac à dos tente de passer par-dessus ma tête, mais ne m'entraîne pas avec lui. Pendant de longues secondes, peut-être des heures, je reste suspendu la tête en bas, bras et jambes en étoile. Du sang dégouline de mes mains et de mes joues écorchées sur la roche en dessous de moi, et je commence le lent processus de réflexion visant à trouver le moyen de me remettre dans le bon sens, puis à décider que faire après. Pour la première partie, je n'ai qu'une solution qui ne me plaît guère. En me retenant toujours par les orteils, je dois courber tout le corps en un U le plus serré possible, en tendant les bras et les doigts à la verticale, et, avant que cette posture ridicule n'arrache ma tennis de la faille et nous arrache JC et moi de la paroi, je dois y fourrer la main. Il s'agira alors de projeter mon corps courbé à l'instant même où mon pied lâchera prise et où je recommencerai à glisser. Pas très orthodoxe selon les critères alpins. Je me réjouis soudain que le diacre ne soit pas en train de regarder ce qui risque d'être mes derniers instants. À chaque seconde passée à réfléchir, ma position, la tête en bas, sape mon énergie et l'afflux de sang au cerveau me brouille les idées. Mon orteil droit ne va peut-être pas résister très longtemps. Je me contorsionne autant que je peux contre la roche, utilisant les rugosités comme prise de doigt en me pliant en U. Mon orteil lâche trop tôt et mes jambes se remettent à glisser, mais j'ai gagné de l'inertie pendant le demi-tour, et tout en tentant d'adhérer à la paroi, je me projette vers la faille trouvée par mon pied. Grâce à Dieu, ce n'est pas qu'une étroite arête, mais une vraie fissure, suffisamment profonde pour que j'y loge mes deux mains. Alors que je suis suspendu la tête en haut, les mains à présent bien ancrées, et que mes tennis trouvent elles aussi des prises sur la paroi rugueuse là où était ma tête quelques secondes plus tôt, je vois que cette faille, d'environ 15 cm de large et 45 de profondeur, continue de courir vers la gauche jusqu'à un point situé à 7 mètres sous la vire de la pipe. Elle a même le bon goût de monter un peu à son extrémité, me rapprochant de ma destination. J'entends Jean-Claude m'appeler.
« Jake ! Jake !»
La courbure de la paroi l'empêche de me voir.
« Ça va ! »
criai-je en réponse aussi fort que je peux. L'écho me revient, renvoyé par les rochers alentours. « Est-ce que ça va ?» Je peux me déplacer vers la gauche en faisant glisser mes mains dans cette fissure, mais il y a une meilleure méthode alpine. J'examine attentivement la roche et trouve les arêtes au-dessus de la fissure qui pourraient servir de prise suffisante. Gardant une main dans la faille en cas d'arrêt d'urgence, je tends l'autre vers une des rides. Comme je n'ai pas le bras assez long, je dois me propulser vers le haut en m'aidant des genoux et des pieds, comme dans ces courts-métrages de Disney où une Alice au Pays des Merveilles, en prise de vue réelle, rencontre des personnages de dessins animés sommairement esquissés. En l'occurrence, je suis le personnage maladroit aux jambes en caoutchouc qui pédale dans le vide. Je trouve la prise dans la ride, elle est suffisante, et je me hisse vers la gauche. La suivante est moins sûre, mais elle supporte mon poids tandis que je grimpe un peu plus haut, me servant encore une fois de la vitesse et de l'adhérence pour défier la gravité. Ça marche. Mes pieds sont à présent dans la fissure, et je n'ai plus qu'à glisser lentement vers la gauche. Même en l'absence de prise fiable pour l'une ou l'autre de mes mains, le contact du haut de mon corps avec la roche incurvée suffit. Je suis sur une voie rapide à présent, et en quelques minutes, j'atteins l'extrémité supérieure de la fissure, même si 5 mètres de roche nue me séparent encore du bord de cette foutue corniche. Je lève les yeux. Je ne veux pas retirer les pieds de cette fissure salutaire. Je ne veux pas devoir m'en remettre encore à l'adhérence et à la prière. À ma droite, la longue corde me reliant à Jean-Claude disparaît derrière la courbure du rocher, celle-là même qui me cache à la vue de mon partenaire de cordée. Petit à petit, je recouvre mon assurance. J'ai appris l'escalade sur des rochers, dans le Massachusetts et sur d'autres sites de Varap en Nouvelle-Angleterre, ainsi que dans les montagnes rocheuses et lors d'une expédition estivale en Alaska. Dans mon groupe d'amis alpinistes de Harvard, c'était moi l'expert rochassier. Là, il ne s'agit que de grimper 5 pauvres mètres d'une roche lisse. Allez, Jake, grâce à la seule inertie verticale, à tes genoux, tes orteils, tes dents même, au besoin, tu dois pouvoir trouver les prises nécessaires pour franchir ces 5 mètres. Les bras écartés, les doigts recourbés, mes pieds abandonnent la sécurité de la merveilleuse fissure et je me propulse vers le haut. Je suis tellement fatigué quand j'atteins le rebord de la corniche que je dois faire une pause, suspendu un instant, avant de me hisser sur l'herbe. Foutu Richard Deacon. Il a risqué nos vies, à Jean-Claude et moi, pour quoi ? Sa pipe est posée dans l'herbe, à 3 mètres de moi, alors que je contemple la vue extraordinaire que le diacre a admirée en profitant de ma force pour descendre en rappel. Il y a aussi un mince bloc rocheux de forme pyramidale qui fera un très bon relais. J'y noue la corde, je recule sur la gauche et fais signe à Jean-Claude qui s'est rapproché de la fissure verticale, mon piolet à présent sous ses pieds. Sa nouvelle position d'assurage, un bras enfoncé dans la fissure et en équilibre sur la courbe d'acier du piolet, aurait peut-être pu m'arrêter si j'avais chuté. Sans doute pas. Je m'accorde encore un instant pour reprendre mon souffle, puis crie
« Prêt ! Relais !»
L'écho me revient. Jean-Claude agite le bras en réponse. J'ai resserré les 18 mètres de corde qui nous relient. J'y sais à quelques difficultés à quitter le maigre appui de mon piolet, en se servant de la fissure verticale pour passer dessous, récupérer l'instrument et le glisser dans le porte-piolet de son sac à dos. Puis il me fait de nouveaux signes de cette distance qui me paraît singulièrement grande, crie « Parti !» et commence à se déplacer sur la paroi. Il chute après la 3e longueur de traversée. Il se met à glisser comme je l'ai fait, mais au moins la corde entre nous lui permet de garder la tête en haut pendant qu'il dégringole vers le surplomb et la chute libre. Ça n'arrivera pas. Il y a moins de 13 mètres de corde entre nous. Je plante un pied sur le rocher pour avoir plus de force de levier et le retiens facilement grâce au relais sur le bloc pyramidal derrière moi. La corde s'effilochera quand je remonterai Jean-Claude, mais on n'y peut rien. Nous l'examinerons et, si nécessaire, nous utiliserons une plus petite longueur pour le rappel. Jean-Claude n'essaie même plus de s'arrêter de lui-même, épargnant pas mal de dégâts à ses doigts, ses ongles et ses genoux, et se balance en décrivant un large demi-cercle jusqu'à ce qu'il se trouve juste au-dessous de moi. Puis je dois marc-bouter, même avec la pyramide de roche en renfort, alors que JC se redresse tout en tenant la corde jusqu'à ce que ses semelles se plaquent contre la paroi. Il commence à escalader comme ça, avec la corde tendue pour seule prise, et je le hisse aussi vite que je peux pour éviter que la roche ne cisaille la corde. C'est de la bonne corde de chanvre, la plus chère que le diacre a pu trouver, mais la vie de mon ami ne tient qu'à ses 12 mm de diamètre. Enfin, le voilà qui se hisse par-dessus le rebord et s'effondre sur l'herbe. J'enroule la corde en l'examinant avec soin.
« Quel enfoiré !»
dit JC en français et en haletant. Je hoche la tête, ajoutant l'expression à mon maigre vocabulaire français. Je partage son sentiment. Jean-Claude se libère de la corde et va ramasser la pipe du diacre.
Quelle connerie de laisser une pipe dans un endroit pareil!
Il la range dans la poche boutonnée de sa chemise, d'où elle ne tombera pas.
On se prépare au rappel, dis-je.
Laissez-moi 2 minutes pour profiter de la vue,
répond-il. Je me rends compte que son ascension l'a vidé de toute son énergie.
Bonne idée.
Pendant presque 10 minutes, nous restons assis là dans l'herbe molle, les jambes dans le vide, le dos collé contre la pyramide de roche réchauffée par le soleil que nous utiliserons comme relais pour le rappel. La vue de cette altitude de 75 mètres, comme si nous regardions par une baie vitrée au 25e étage d'un gratte-ciel de New York, est indéniablement superbe. En voyant d'autres rochers plus hauts, plus fins et représentant un plus grand défi pour des grimpeurs, je me demande si George Mallory et Richard Davis Deacon les ont aussi escaladés durant ces années-là, entre la fin de leurs études à Cambridge en 1909 et leur départ à la guerre en 1914. Quant à moi, un seul rocher gallois me suffit pour l'année, ou pour la vie entière. Très marrant une fois, mais pas plus. Merci. C'est agréable d'être en vie. Après avoir admiré la vue pendant un moment et laissé Jean-Claude reprendre des forces, nous attachons les cordes pour le rappel. Bien que la portion que j'ai utilisée pour tirer JC paraisse en bon état, nous la rangeons dans mon sac à dos et ne nous en servirons qu'en cas d'absolue nécessité. La descente en rappel est amusante. Après les 25 premiers mètres, nous nous balançons en un mouvement pendulaire, les pieds courant sur la paroi lisse, jusqu'à ce que Jean-Claude agrippe le bord de la fissure verticale que nous avons suivie pour monter. Une seconde plus tard, il est dans cette faille, à l'endroit où nous avions repéré des prises et aspérités utiles, la seule plateforme fiable dans toute la fissure verticale, et je m'élance bientôt pour l'y rejoindre. JC a noué un nœud solide pour notre rappel à deux cordes. Une corde coincée peut être un cauchemar lors d'un si long rappel, et nous avons besoin de ces 2 fois 25 mètres supplémentaires pour la dernière section de descente à une seule corde à partir d'ici.
On retire la gauche, crions-nous tous deux à l'unisson. Il suffirait de tirer sur la mauvaise corde pour que le beau nœud de Jean-Claude se prenne dans la sangle de rappel que nous avons fixée, ce qui nous créerait des soucis. Je vérifie les extrémités des cordes, défais quelques petits tortillons et les nœuds de sécurité que nous avons formés. Puis, prenant la corde de gauche, je tire dessus un bon coup. Alors qu'elle commence à se détacher, je crie « Corde !» une vieille habitude tout à fait nécessaire. 50 mètres de corde en chute libre sont susceptibles de faire tomber un grimpeur même d'une solide plateforme. Nous tirons le premier brin et l'enroulons. Puis je crie de nouveau « corde !» et descends le second. Il n'y a pas de blocage, pas de débris tombant avec. Nous récupérons la deuxième corde, l'enroulons, et JC commence à rabouter les deux de sa main experte de guide de Chamonix. 5 minutes plus tard, nous sommes en bas. Nous tirons sur la longue corde, puis nous écartons pour éviter sa masse qui tombe par terre en soulevant de la poussière et des pommes de pin. Au lieu de l'inspecter et de l'enrouler aussitôt comme nous le devrions, nous nous dirigeons tous les deux vers l'endroit où le diacre paraît encore endormi. À mon avis, il fait semblant. Je pense qu'il nous a observés pendant que nous négocions les endroits difficiles de l'ascension et de la traversée. Du bout de ma tennis déchirée, je lui donne un coup dans le genou pour attirer son attention. Le diacre repousse son chapeau et ouvre les yeux. J'entends la hargne dans ma voix.
« Bondi ! Bon sang ! Allez-vous nous dire ce que ça a à voir avec l'Everest ?»«
Oui, » répond le diacre. « Si vous m'avez rapporté ma pipe. » Sans sourire, Jean-Claude sort la pipe de sa poche. Je regrette à moitié qu'elle ne se soit pas cassée pendant le rappel. Le diacre la range dans la poche de poitrine de sa veste, se met debout et lève les yeux vers la paroi rocheuse. Nous la regardons tous les trois. Je l'ai gravie avec George Mallory en 1919, dit-il. Cela faisait 5 ans que je n'avais pas fait d'escalade, après 4 années de guerre et une à chercher du travail. Jean-Claude et moi attendons la suite mécontents. Pas d'humeur à entendre de vieilles histoires d'héroïsme, que ce soit à la guerre ou en montagne. Notre cœur et notre esprit sont déjà tendus vers l'Everest, où il nous faudra affronter de la neige et des crevasses, gravir des murs de glace, des dalles verglacées, des arêtes balayées par les vents et une gigantesque face nord sur laquelle nous n'aurons pas envie de nous aventurer trop loin. Mallory avait fait la reconnaissance en rappel depuis le sommet et s'était arrêté pour fumer sa pipe sur la vire herbeuse, poursuit le diacre. Il n'y avait que Mallory, sa femme, Ruth, et moi. Et Ruth ne tenait pas à effectuer toute l'ascension. À gauche de la corniche, Mallory a trouvé la seule échancrure dans le surplomb que nous pourrions peut-être escalader sans pitons, échelles de corde et autres équipements modernes. J'y suis allé. Mais la traversée de la fissure à la vire, puis l'escalade pour remonter le surplomb, a épuisé toutes mes forces. Nous étions encordés, mais les relais étaient aussi impossibles que vous l'avez découvert. Quel rapport avec l'Everest, à part nous dire que George Mallory était un bon grimpeur? Mon animosité n'a pas complètement disparu. Quand nous sommes redescendus par l'autre côté et revenus ici récupérer notre matériel avant de partir, répond le diacre, Mallory nous a dit qu'il avait oublié sa pipe sur cette corniche. Et avant que j'aie pu lui faire remarquer qu'il en avait d'autres ou que je lui en offrirais une neuve, voilà Georges qui s'élance et escalade jusqu'à votre point de relais, Jean-Claude. Puis il a effectué la traversée sur la paroi lisse, tout seul. En tentant de me le représenter, je n'imagine qu'une grosse araignée noire filant sur le rocher. Seul, sans aide et sans espoir d'être assuré. Même en 1919, ce genre d'ascension en solo et sans aucune protection était mal vu. Ça passait pour de la frime et c'était contraire au protocole de l'Alpine Club de la Royal Geographical Society à laquelle appartenait Mallory. Puis il a pris le rouleau de corde qu'il avait monté et il est redescendu en rappel, continue le diacre, avec sa pipe. Ruth était furieuse. JC et moi attendons en silence, commençant peut-être à entrevoir la signification de cette journée. Le dernier jour, Mallory et Irvin ont quitté le camp 6 à 8530 mètres d'altitude à 9h du matin. Ils ont mis du temps à démarrer. Vous avez tous deux vu des photos et des cartes de l'Everest, mais il faut se trouver sur cette arête, dans les vents violents et le froid mortel, pour comprendre. Jean-Claude et moi ne disons toujours rien. Une fois arrivé sur l'arête nord-est, et si les vents permettent d'y rester, l'ascension consiste à gravir des dalles inclinées et recouvertes de glace. Sauf qu'il faut passer les 3 ressauts. JC et moi échangeons un regard. Sur les cartes de l'Everest que nous avons consultées, et sur les photos que nous avons vues, prises à une grande distance, ces 3 ressauts ne nous ont pas paru former des barrières infranchissables. On peut contourner le premier ressaut en s'aventurant sur la face nord, juste en dessous,
puis en escaladant la paroi pour rejoindre l'arête si on est bon, dit le diacre. Le troisième ressaut, aucun vivant ne peut en parler. Mais le deuxième, je suis allé jusque-là. Le deuxième ressaut, le diacre a une étrange expression, presque douloureuse, comme s'il racontait une terrible histoire de guerre. Le deuxième ressaut, on ne peut pas le contourner. Le deuxième ressaut s'avance vers vous, émergeant des nuages tourbillonnants et des rafales de neige, telle la proue grise d'un cuirassé. Le deuxième ressaut. Mallory et Aervin auraient dû l'attaquer en escalade libre. Et nous le devrons aussi. Et ça, à 8625 mètres d'altitude, où il faut s'arrêter à chaque pas pour reprendre son souffle pendant 2 minutes. Le deuxième ressaut, mes amis, cette coque grise de navire de guerre qui se dresse en travers de votre chemin sur la voie du sommet par l'arête nord-est, mesure 30 mètres de haut, bien moins que ce que vous avez grimpé pour récupérer la pipe aujourd'hui. Mais il est constitué d'une roche escarpée, friable et piégeuse. La seule voie que j'ai pu distinguer, avant que le vent et que Norton, mon partenaire d'escalade de plus en plus malade, ne nous oblige à rebrousser chemin. La seule voie possible que j'ai pu distinguer est une dalle perpendiculaire de 4 ou 5 mètres dans la partie supérieure, elle-même fendue verticalement par 3 larges fissures montant vers le haut du deuxième ressaut. Cette escalade que vous venez de réaliser, et encore n'êtes-vous pas allé jusqu'au sommet en franchissant le surplomb, est évaluée très difficile dans le système de classement de l'Alpine Club. L'escalade libre du deuxième ressaut, au-dessus de 8500 mètres, ne l'oubliez pas, là où, même avec des appareils à oxygène, le corps et l'esprit se dégradent à chaque seconde, est encore plus exigeante. Il est peut-être impossible de gravir une telle paroi rocheuse à une telle altitude. Vient ensuite le troisième ressaut, plus haut sur l'arête, le dernier véritable obstacle à mon avis, à l'exception d'une pyramide de neige qu'il faut gravir juste sous la dernière arête sommitale. Ce troisième ressaut est peut-être encore plus impossible. Jean-Claude se contente de dévisager le diacre pendant un long moment de silence. Puis il dit « Vous vouliez donc vous assurer que nous, ou plutôt que Jake, était capable de faire une escalade libre comparable, puis de me hisser comme un ballot de linge sale ?» Et il a réussi. Donc, je ne comprends toujours pas. Cela signifie-t-il que vous nous jugez aptes à faire ce même genre d'escalade au-dessus de 8500 mètres d'altitude ? Le diacre affiche un franc sourire cette fois. Disons que nous pouvons essayer sans que cela s'apparente à un suicide. Je me crois capable de passer l'épreuve du deuxième ressaut, et je pense à présent que Jake le peut aussi et que vous, Jean-Claude, ferez un excellent troisième partenaire. Cela ne nous garantit pas de vaincre l'Everest. Nous ignorons ce que nous trouverons derrière le deuxième ressaut, sauf peut-être, qui sait, les corps gelés de Mallory et d'Aervin. Mais cela nous donne des armes pour nous battre. Je finis d'enrouler la corde et la passe sur mon épaule en réfléchissant à tout ça. Malgré mon ressentiment, je pardonne au diacre de nous avoir imposé cette mission ridicule. Mallory avait effectué cette escalade en solo, après avoir grimpé en suivant le diacre. C'était plus sport, lui aurait dit Mallory, puisqu'il avait l'avantage d'avoir fait la reconnaissance en rappel. Nous reprenons le chemin de la voiture, soit 2 heures de marche sur un terrain accidenté après une journée d'escalade, et je me sens pourtant tout léger. Mon cœur, ou mon âme, ou quel que soit le nom qu'on donne à ce qui fait de nous ce que nous sommes, a pris son envol. Nous allons gravir l'Everest, tous les trois. Quelle que soit l'issue de notre recherche de Lord Bromley, et je doute que nous retrouvions quoi que ce soit, nous allons tenter ensemble d'atteindre le sommet de la plus haute montagne du monde. Et le diacre nous croit maintenant capable d'escalader la proue de cuirassé qu'est la paroi verticale du deuxième ressaut. Il m'en croit capable. À partir de ce moment, Un feu tout neuf s'allume en moi et continuera de brûler pendant les semaines et les mois suivants. Nous allons gravir cette maudite montagne. Il n'y a maintenant plus d'alternative. Nous allons nous tenir tous les trois au sommet du monde.